a long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Bizarre parfois le destin. Pourquoi ne s'est-elle pas retrouvée plus tôt sur la route dans sol majeur, Fanny Glissant ? Je ne saurais dire, le sel de la vie veut que ce soit aujourd'hui. Donc ça y est, cette productrice-réalisatrice nous arrive avec cette série documentaire qui circule déjà dans les écoles, après diffusion sur Arte il y a quelques mois, Les routes de l'esclavage, un doc en quatre volets de 50 minutes retraçant le commerce mondialisé qu'a représenté la traite humaine puis négrière depuis des temps immémoriaux et même après l'abolition de l'esclavage en 1848. Une route économiquement sinueuse, passée par l'Égypte, le Mali, l'Angola, le Portugal, la France, l'Angleterre, le Brésil, et qui atteint son apogée en 1790 avec 100 000 captifs déportés par année. Au total, 20 millions d'Africains dans les cales de l'histoire. Alors aujourd'hui, qu'on soit noir ou blanc, né sur une rive plutôt que sur une autre, je crois que les routes de l'esclavage est un objet qu'on doit s'offrir pour savoir et pour comprendre les multiples répercussions de ce système sur nos sociétés contemporaines, de Tombouctou à Rio de Janeiro en passant par Lisbonne ou Bordeaux. Quant à la petite caravelle personnelle de Fanny Glissant, co-réalisatrice et productrice de ce projet, on apprendra en sol majeur qu'elle mouille dans l'Atlantique noir, tiens tiens, du côté des Antilles. Bonjour Fanny Glissant.
Bonjour Yasmine.
Glissant, glissant, ça nous dit quelque chose?
Oui, oui, il se trouve que j'ai un oncle illustre, on dira, en la personne d'Edouard Glissant, qui est un poète, essayiste, philosophe.
Je sens qu'il va nous accompagner un tout petit peu en sol majeur. Alors votre doc coïncide bien sûr avec l'année du 170e anniversaire de l'esclavage. Et puis je regarde aussi la montre. On est aussi 17 ans après la loi Taubira, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est une loi, je le rappelle, qui demande notamment que soit intégrée dans les programmes scolaires en France cette histoire de l'esclavage. Est-ce que vous, Fanny Glissant, vous avez eu du mal à monter et à imposer ce projet ?
Alors, d'abord, la loi Taubira, elle est très importante pour ce projet. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle a permis à toute une série d'historiens en France d'être subventionnés et de travailler dans les laboratoires qui ont pu nous aider à construire le film qu'on a voulu faire, comme ça, avec Juan Gelas et Daniel Cattier. Donc, 17 ans, c'est presque le temps pour lancer des grandes thèses, sortir des éléments, des archives, des documents qui n'avaient pas été exhumés jusque-là. Et oui, ça a été assez difficile de monter ce projet, bizarrement. Assez difficile, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression de tout connaître sur l'histoire de l'esclavage. On a l'impression que c'est une histoire qui est en même temps très lointaine, mais en même temps très proche. Et qu'elle est terminée puisque l'esclavage a été aboli. Et en fait, c'est une histoire assez mitée qui est presque peu transmise, on va dire. En plus, avec des vraies différences historiographiques entre ce qui peut se passer aux États-Unis et en Angleterre, où il y a vraiment une problématique qui a été soulevée avec les post-colonial studies, avec les black studies et cultural studies. Et en France, il y avait une espèce de latence, d'où d'ailleurs cette loi Taubira. Et donc du coup, il a fallu convaincre nos partenaires que oui, c'était important de raconter cette histoire et surtout d'essayer de la raconter loin de deux terrains qui nous semblaient avoir été beaucoup labourés. D'un côté, tout ce qui était repentance, histoire de la culpabilité, on va dire, et d'autre côté, tout ce qui était victimisation. Et pour nous, on voulait vraiment trouver une troisième voie dans laquelle on pourrait raconter les résistances, les résiliences, et surtout essayer de comprendre l'esclavage comme un phénomène global et un phénomène économique qui a commencé avec l'aube de l'humanité, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous avez des sociétés hiérarchisées, vous avez la mise en esclavage des hommes.
Alors l'une des premières choses qu'on apprend, ou que vous nous rappelez, puisque vous démarrez avec la période de l'Empire romain, c'est que l'esclavage n'a pas touché exclusivement les Africains.
Exactement, c'est quelque chose d'assez tardif. Alors quand on dit ça, on a l'impression que les bras nous en tombent, mais oui, il faut attendre le 7e siècle, 7e, 8e siècle, pour que se mettent en place les premières routes et les premières déportations et migrations forcées de populations subsahariennes. Avant, l'esclavage est majoritairement blanc, on va dire. Vous avez le mot slave, qui est la racine étymologique du mot esclave.
Mmh. Alors, vous nous embarquez au 9e siècle à Bagdad, qui est le centre du monde à ce moment-là. On est en pleine conquête arabe et c'est là qu'on trouve à Bagdad les premiers esclaves africains. Et puis, au 10e siècle, le centre géopolitique se déplace, c'est le Caire. Et là, on retrouve plutôt des esclaves domestiques, des femmes notamment. Et puis, de là, les routes de l'esclavage se déploient à partir du Caire, vers l'Afrique intérieure. Elles franchissent le désert vers 1235, grâce aux berbères islamisés d'ailleurs, jusqu'à l'Empire du Mali.
À sa tête, le roi des rois, Soundiata Keïta, père fondateur de cet immense empire. En remportant la grande bataille de Kirina en 1235, Soundiata Keïta a réussi à fédérer tous les peuples de la région et à constituer un gigantesque réseau commercial le long des rives du Niger.
Kirina est finie, Soundiata, tous les griots parlent de toi comme d'un chef, hein. C'est ce que dit la chanson qui célèbre aujourd'hui encore Soundiata Keïta, cet extrait en sol majeur sur RFI de votre doc Les routes de l'esclavage, pour dire, Fanny Glissant, que donc là, à Tombouctou, va s'établir un comptoir entre arabes et berbères. Un comptoir où on troque de l'or, de l'ivoire, du sel, des dattes et aussi des esclaves.
Et des hommes, oui, tout à fait. Et donc vous avez une circulation qui se construit autour des deux rives, on va dire, du Sahara. Et vous avez une circulation qui va du nord vers le sud, mais aussi du sud vers le nord. C'est-à-dire que vous avez aussi des esclaves blancs qui vont se retrouver à Tombouctou. Ça nous paraissait intéressant comme ça, de montrer que les choses ne vont pas dans un seul sens. Et que l'histoire de l'esclavage, elle est prise dans cette complexité de la mise en rapport de différentes cultures. Ce qui était aussi très intéressant, c'est de se dire, dans cet islam noir, hein, dans cette rive du Sahara qui est islamisée, on va aussi aller chercher des esclaves encore plus loin. Quoi. Et il y a une espèce de connaissance comme ça, de différentes ethnies qui vont être des vrais réservoirs d'hommes pour pouvoir être amenés dans tout l'espace méditerranéen. Il faut bien comprendre que c'est pas juste au Caire que les choses se passent, mais que ça va être aussi en Sicile, et ça va être aussi jusqu'aux confins du monde connu, c'est-à-dire jusqu'au Japon.
Pour admettre aussi l'implication des élites africaines dans ce système esclavagiste, et pour l'admettre, je dirais, sans morale.
C'était un point très important. Je crois qu'il y avait deux écueils dans lesquels on ne voulait pas tomber, qui étaient l'écueil de la morale et l'écueil de la couleur de peau, j'ai envie de dire. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un système de hiérarchie et de domination qui va se poser entre puissants et dominés. Et la question de la couleur de peau ne se pose pas. C'est-à-dire que ce sont les classes dirigeantes qui, tout d'un coup, mettent en esclavage des dominés. Et il se trouve que, évidemment, les élites africaines, comme les autres, ont participé à la traite des esclaves.
Alors votre doc en quatre volets s'ouvre comme un immense atlas, hein, où on suit depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle ces routes de l'enjeu économique mondial, on peut appeler ça comme ça, qu'est l'esclavage. Et en particulier, alors, j'ai adoré découvrir, voir se déplier sous nos yeux ce qu'on appelle, je ne sais pas, vous allez nous dire un petit peu, l'atlas catalan.
Oui, alors l'histoire de l'atlas catalan.
Extraordinaire.
Donc c'est un atlas qui est dessiné en 1375 et qui fait vraiment une sorte de somme. Il faut comprendre à ce moment-là que les cartes, c'est vraiment comme l'algorithme de Google aujourd'hui, hein. C'est des choses extrêmement précieuses. Donc il se trouve que l'atlas catalan est conservé à Paris, dans les réserves de la Bibliothèque nationale, et on a eu l'immense privilège de pouvoir le filmer.
Alors c'est la première cartographie mondiale en fait.
C'est la première cartographie mondiale qui met vraiment on va dire la Méditerranée au centre. On découvre évidemment l'Afrique et on découvre
la circulation.
La circulation
des hommes.
Les grands empires qui sont déjà placés. C'est une carte aussi géopolitique. Et on découvre l'importance de l'Afrique aussi. C'est ça qui nous a paru essentiel pour pouvoir finir le premier épisode et démarrer le deuxième.
Alors, on a laissé Soundiata Keïta donc, à la tête de cet empire du Mali, en fait, qui recèle l'or du monde entier, et son héritier, qui n'est autre que son neveu, un certain Mansa Moussa, il va être lui-même à la hauteur de tout cet or que possède le Mali. Sauf que cette fortune, cette richesse, ce grenier économique, on va dire, du monde, va arriver aux oreilles des Européens.
par le biais de cette carte, justement. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a, dans cette volonté, comme ça, de construire une sorte de communauté autour du Sahara. C'est-à-dire que vous avez un Kanka Moussa ou Mansa Moussa, voilà, ça dépend, qui va remonter jusqu'au Caire et faire un voyage qu'il mettra 2 ans à préparer. Mais en arrivant au Caire, il se connecte évidemment à l'espace méditerranéen. Et du coup, la richesse de Kanka Moussa, on dit qu'il avait des quintaux d'or et qui s'est déplacé avec des centaines d'esclaves pour arriver jusqu'au Caire, cette richesse va arriver à l'oreille des Européens. Et du coup, cette promesse de richesse va les pousser à aller jusque sur les côtes africaines.
Donc les Européens entrent dans la danse pour faire main basse sur l'or d'Afrique. On a les Portugais qui vont s'emparer de São Tomé. Ça, c'est l'objet de votre deuxième doc, Les routes de l'esclavage, Fanny Glissant. São Tomé, qui est un poste de vigie absolument idéal pour avoir l'œil sur le royaume du Congo. On est d'accord?
Ouais, oui, c'est plus que...
plus que ça encore.
C'est presque plus que ça, parce qu'en fait, c'est aussi le premier grand port négrier qui va permettre d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire au Brésil. Donc, à São Tomé se construit un espace luso-africain. Et une circulation qui va se faire en droiture, c'est-à-dire on a toujours dans la tête une sorte de schéma comme ça d'un commerce triangulaire, mais avant tout, la mise en place des routes, c'était d'abord des routes en droiture, c'est-à-dire qui partaient du golfe de Guinée pour aller jusqu'aux côtes brésiliennes, pour après remonter en Europe et jusqu'au royaume du Portugal. Et ce qui est singulier et particulier, c'est que en gros, la première culture, on va dire, issue de l'esclavage, vous allez avoir des capitaines de navires et des négriers qui, en fait, vont être des enfants métis. Donc, les premiers négriers vont être, en fait, noirs de peau.
On revient à São Tomé, São Tomé qui va devenir en fait le laboratoire de la traite négrière. Mais São Tomé, c'est aussi parce qu'on est en forêt, là, c'est un territoire qui est difficile à contrôler.
Nous, Gonzalo Alvarez et Rodrigo Yeres, juges de paix sur cette présente île de São Tomé, alertons vos excellences sur la véracité de l'existence d'un Mocombo dans la forêt qui est très peuplée et qui nous fait énormément de tort, tuant et volant les hommes et détruisant les plantations, ce qui amène préjudice aux occupants de l'île ainsi qu'à votre Altesse le Roi et au profit qu'elle tire de cette île. Messire, nous avons des hommes armés prêts à se battre contre le Mocombo fortifié. Mais nous n'avons pas d'argent pour les payer. Et chaque jour, la forêt se remplit de plus en plus avec des noirs en fuite. Et nous sommes terrifiés dans l'attente du jour où ce Mocombo et ses habitants feront un mal qui est contraire à la volonté de Dieu.
Oh.
Oh, comme ordre colonial.
Fanny Glissant, grâce à votre doc, et merci pour la voix de Mathieu Amalric, magnifique, grâce à votre doc et aux archives que vous mettez en scène sous forme de petits films d'animation, on réalise en fait que bien avant la cérémonie de Bois Caïman en 1791, ex-Saint-Domingue, actuel Haïti, les esclaves se sont presque toujours révoltés.
Toujours révoltés.
Parce que ça aussi, on a des préjugés autour de ça.
Oui, on a l'impression que la grande révolte finale est superbe, haïtienne, construit la résistance ultime à l'esclavage. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'esclave qui n'ait essayé de retrouver sa liberté. Par exemple, il y a une histoire, donc je fais un peu un saut dans le temps, mais c'est une histoire que je trouve tellement belle. On se rend compte que les femmes esclaves portugaises, esclaves urbaines, vont, quand elles auront des enfants, acheter leur liberté. C'est-à-dire, très petits, quand ils vont avoir 6 mois ou 1 an, elles vont acheter leur liberté à ce moment-là parce que c'est le moment où ils coûtent le moins cher. Elles vendaient, par exemple, des boutons en os, elles vendaient de la petite cuisine qu'elles faisaient dans les rues. Ça représente des années et des années de travail. Et en fait, elles achètent la liberté de leur enfant dans l'espoir que celui-ci pourra un jour acheter lui-même la liberté de sa mère. C'est dire à quel point l'idée de retrouver sa liberté est une obsession pour l'esclave à tout moment de l'histoire.
Alors, donc, ce doc est donc, c'est à voir et c'est votre vœu premier, je crois, à vous, Fanny Glissant, et au réalisateur de ce doc, c'est à voir comme une immense leçon d'histoire, mais aussi comme une immense leçon d'économie mondiale, puisque ce système esclavagiste se met en place, au fond, pour des besoins européens, en sucre, en café et en coton.
C'est-à-dire que la première phrase du film, c'est de dire, pour comprendre l'esclavage, il faut savoir d'où vient la demande. D'où vient la demande de main-d'œuvre ? D'où vient la demande de matières premières et d'où vient la demande de marchandises. Et donc, tout d'un coup, dans l'établissement des grands empires arabo-musulmans, tout d'un coup, on a vraiment besoin de bras pour pouvoir irriguer, assécher la plaine arabique. Et tout d'un coup, on a besoin de cette masse de gens qui vont se mettre à travailler. Et pareil, quand l'Europe va se mettre à se construire et la révolution industrielle va se mettre en place, enfin proto-industrielle, puis industrielle va se mettre en place, on aura toujours besoin d'hommes pour produire ces matières premières, effectivement.
Donc en fait, c'est moins le racisme ou la mission, la fameuse mission civilisatrice des Lumières qui est le moteur de tout ce processus esclavagiste.
Alors, la philosophie des Lumières ne peut pas être, ne peut pas être le moteur de l'esclavage parce qu'elle le combat au nom des, bien sûr, des libertés individuelles. Hein, c'est une des grandes questions des Lumières. Mais le racisme et la race est une invention qui est issue de l'esclavage et non pas le contraire. Donc c'est une chose assez difficile à percevoir, ouais. Mais en fin de compte, quand vous demandez à un paysan du 16e siècle ou du 17e siècle s'il est blanc, il ne peut pas vous répondre. Parce que pour lui, être blanc n'a aucune valeur. Il faut donc attendre à la société esclavagiste et coloniale antillaise et des petites Antilles. Et il faut attendre le transbord dans le navire négrier pour que s'inventent des maîtres majoritairement blancs et des esclaves majoritairement noirs.
En tout cas, les conséquences de la traite transsaharienne sont immenses. La preuve du côté du Sahel, aujourd'hui, hein, où les Touaregs qui ont le teint clair continuent de réaffirmer leur autorité sur les Bélas, qui sont les descendants d'esclaves. Et par exemple, vous recueillez le témoignage d'Intamat et de sa femme Aïssatou, qui pour s'extraire de leurs conditions d'esclaves, se cachent aujourd'hui dans les faubourgs de Bamako.
Son père nous a dit que ses enfants ont tous été enlevés par un Touareg d'Aouchak, dénommé Sakdoudoun.
J'ai vécu des choses terribles qui m'ont fait partir. La souffrance que j'ai vécue m'a fait partir. Mes petits frères et des proches y sont encore. Ils sont là-bas. J'étais comme une domestique. Voilà ce que j'étais. Une personne qui ne vivait pas auprès des siens. Je faisais tout ce qu'ils souhaitaient.
Et tu recevais de l'argent ou des animaux en contrepartie ?
Je ne recevais rien que de la souffrance. Seulement de la souffrance.
Leur liberté reste fragile. Sans la protection de leurs anciens maîtres, ils vivent souvent dans le dénuement le plus complet. Même dans l'anonymat des grandes villes du Sud, un simple nom de famille peut suffire à trahir l'ascendance d'une personne. Cette difficulté à s'affranchir de sa caste perpétue un ordre social millénaire.
Même si tu es devenu un député, même si tu es député, tu es captif. Même si tu es ministre d'intérieur, tu es captif. On va t'appeler captif. Et tu n'as pas ta dignité chez eux. Tu n'as pas une dignité. Tu n'en as pas.
Question en sol majeur sur RFI. Au fond, c'est quoi le but d'un documentaire comme Les routes de l'esclavage pour les afrodescendants, Fanny Glissant?
Eh ben, c'est de dire que l'histoire est dépassable. C'est-à-dire que c'est Fanon qui nous dit que pour ne pas rester esclave de sa propre histoire, il faut bien sûr la connaître. Voilà. Et donc, ce qui était très important pour moi, c'était de pouvoir donner des clés de compréhension de tous les stéréotypes qui se mettent en place et qui sont postérieurs à l'esclavage. Quand je dis ça, c'est que voilà, je suis aussi bien descendante de maître que descendante d'esclave.
Vous personnellement ?
Moi personnellement, oui. Mais je pense qu'on l'est un peu tous, en fait, parce qu'on est tous héritiers du système de domination qui se met en place. Mmh. Et cet héritage-là, c'est l'héritage de l'humanité. Donc en ça, il doit être partagé par tous. Moi personnellement, j'ai appris au cours du montage de ces films que 5 générations plus haut, notre maître s'appelait le Sieur Pain. Et qu'il avait donc une plantation sur l'île de la Désirade. Et que du coup, il avait affranchi le fils qu'il avait eu avec une femme esclave. Donc je suis aussi bien descendante de maître que descendante d'esclave. Voilà, cette histoire elle est commune. Moi, je la porte en moi, mais en fait, nous la portons tous. Et en France, comme dans tous les pays européens qui ont majoritairement participé à l'exploitation de l'homme par l'homme.
Donc c'est une histoire en fait qui nous relie plus qu'elle ne nous sépare.
C'est une histoire qui nous relie, et la seule possibilité pour qu'on ait cette mémoire partagée, c'est évidemment d'essayer de présenter des œuvres qui ne soient pas juste des œuvres qui posent victime et coupable, mais bien des œuvres qui font sens pour pouvoir dépasser.
Alors sur la route de Fanny Glissant, parce qu'on va quand même s'y aventurer, il va y avoir Cuba et la voix de Guillermo Portavalès, qui est célèbre hein, dans toute l'Amérique latine des années 30-40. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Oui, c'est parce qu'en même temps, je suis pas si vieille que ça.
Vous êtes toutes gamines.
Alors qu'est-ce que ça évoque pour moi? Je pense que c'est pas non plus un hasard que tout d'un coup je me sois intéressée à l'histoire de l'esclavage. Je crois que la notion des liens et cette notion de panafricanisme était très présente dans ma famille. Et l'aventure de Cuba, l'aventure d'Haïti, j'ai envie de dire aventure politique, elles étaient là de façon très forte. Et il se trouve que pour communiquer ces positions politiques fortes qui avaient été faites dans ces îles de la Caraïbe, tout ça est passé par la musique.
Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Sentida y muy guajira alegre canto. Me voy al transbordador,
bamba,
a descargar la carreta,
bamba.
Me voy al transbordador,
bamba,
a descargar la carreta,
bamba.
Para llegar a la meta,
bamba,
de mi penosa labor.
A caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Casar que
bamba.
Yo trabajo sin reposo,
bamba,
para poderme casar,
bamba.
Y si lo puedo lograr,
bamba,
seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte. Recoge el fruto de tu sudor, chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.
De quoi ça cause en sol majeur? Eh bien, ça cause d'un paysan charretier content de vivre le paradis sur terre. C'est la traduction. Et c'est signé Guillermo Portavalès sur RFI, dans les oreilles d'une Fanny Glissant, dont le cœur roule d'amour pour l'océan Atlantique, côté Guadeloupe, Martinique, Désirade.
Thank you. Que savez-vous de vos ancêtres?
Alors avant de répondre à cette immense question, un petit mot quand même de ce théâtre sonore, Fanny.
Oh oui, c'est très beau. C'est-à-dire que c'est vraiment... Là, vous venez de me projeter sur la terrasse de ma grand-mère à Pointe-des-Châteaux avec une vie sur la mer, tout à fait. Saint-François en Guadeloupe. Vous venez d'entendre la voix de Franck Valmont, qui était un ami de la famille, mais un compositeur, chanteur, interprète de talent avec une voix de crooner des années 50, mais qui avait la biguine dans le sang. Et le bruit de l'eau qui tambourine sur les tôles, peut-être du petit garage qui est à côté de la terrasse où on est installé. Et c'est la fin de nos repas familiaux qui se terminent souvent en chanson après avoir mangé un courbouillon de poisson.
Comme quoi, on peut être né à Paris du côté de l'année 73 et brûler toutes les frontières, car vous me l'avez dit, il y a tous les sangs de la terre dans votre famille.
Exactement, il y a du sang jaune, du sang blanc, du sang rouge et du sang noir. Donc après, aller définir une identité avec ça, ça devient une recherche depuis tout petit, j'ai envie de dire. Mon arrière-grand-père s'appelait Wong Yong Kong. Il vient de la région de Canton. Et au tout début du XXe siècle, il doit arriver en Guyane, en 1802, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'il y a une immigration extrêmement forte qui est faite avec un système qui s'appelle l'engagisme, où tout d'un coup, la fin de l'esclavage fait que les grands propriétaires terriens vont appeler des hommes de tous les endroits de la terre, d'Inde, de Chine, pour pouvoir suppléer aux esclaves maintenant libérés. Et on pense que ce grand-père est passé en fait peut-être par le Brésil.
Arrière-grand-père.
Arrière-grand-père, pardon. Pour arriver après en Guyane, où il s'est installé avec Monsieur Calment et il s'est lancé dans la recherche de l'or. Voilà.
Ça, c'est pour l'arrière-grand-père.
Ça, c'est pour l'arrière-grand-père.
La génération des arrière-grands-parents. La génération des grands-parents, elle est bien aussi.
La génération des grands-parents, donc, ont cru aux valeurs républicaines et ils s'y sont attelés avec beaucoup de passion puisqu'ils ont été tous fonctionnaires. Ils sont tous rentrés dans l'éducation nationale, qui inspecteurs d'académie, directrices d'école, enseignants. Ils s'y sont attachés beaucoup puisqu'il y avait aussi une formation des maîtres. Ils allaient donc en France, en métropole, pour pouvoir apprendre et parfaire leur savoir. Et donc, je crois que c'est eux.
Alors,
qui...
dites-nous tout quand même sur votre grand-mère paternelle, Jeanne.
Ah, Jeanne. Alors, Jeanne, elle est fille de ce Wong Yong Kong, métisse, chinoise, noire et amérindienne. Et elle va rencontrer un très beau jeune homme habillé, j'ai envie de dire, en uniforme colonial. Et ça, elle va le rencontrer dans une garnison en Guadeloupe. Et qui lui revient.
Amoureuse, elle va tomber. Du costume. Colonial.
Du costume colonial blanc parfait de mon grand-père, montant à cheval, revenant fraîchement débarqué d'Indochine. Et donc elle va tomber amoureuse de lui.
Et côté maternel, on a Richard et Rose.
Alors Richard, donc Rose, elle est petite fille d'esclave. Donc elle habite à Pointe-des-Châteaux, l'endroit où je vous ai peut-être amené tout à l'heure. Mmh. Elle vit là-bas, c'est les terres qui ont été données à son père, que donc son grand-père affranchi a réussi à gagner. Et c'est des terres extrêmement arides sur lesquelles rien ne pousse, si ce n'est des courges. Du coup, son père va être pêcheur. Et Rose, qui avait une sagacité particulière, était assez vive, va faire partie de ceux qui vont suivre une instruction. Et on va avoir leur certificat d'études.
À quel moment cette famille française d'une France périphérique, comme vous dites, se retrouve dans l'Hexagone?
Alors, il a fallu du temps parce qu'en fait, ils vont arriver dans leur stage de formation de maître et prendre toute leur marmaille, qui est nombreuse.
La génération des grands-parents.
La génération des grands-parents et donc avec mes parents. Tout le monde s'embarque sur l'Acadie, le France et tous ces bateaux avec des noms très évocateurs. Et ils vont faire... j'ai envie de dire le transbord, mais dans l'autre sens. Mmh. Et arriver dans les années 60 dans un Paris noir, froid et un peu hostile.
Un Paris noir. Ah, c'est assez récent pour vous de savoir que vous êtes à la fois descendante d'esclaves et de maîtres.
Tout à fait. Parce que bizarrement, il y a une transmission qui s'est faite. Alors, vous me posez cette question et je me dis, est-ce que la transmission s'est faite parce que j'ai questionner sans relâche mes parents et grands-parents ou est-ce que la transmission s'est faite parce qu'elle était naturelle? Je crois que je vais opter pour la première, pour la première réponse.
Est-ce que c'était tabou, toutes ces questions?
C'était pas tabou, mais je pense que dans la transmission, et surtout quand notre histoire est connectée et issue de l'esclavage, il y a quelque chose qu'il faudrait transmettre dans un temps héroïque, dans un temps qui serait un temps de la fierté, de la dignité. Et je suis pas sûre que ce temps de l'esclavage soit pensé comme un temps de la fierté et de la dignité. Il est peut-être pensé comme un temps d'une forme de, sans être de culpabilité, mais en tout cas d'opprobre de la condition, en fait.
Et mais c'est facile, ni d'un côté ni de l'autre, d'être descendant, pas vous directement, mais en fait c'est cette histoire-là que vous racontez, que vous portez, d'être descendant d'un côté d'esclaves et de l'autre des maîtres.
Oui, mais parce
que... Le tabou, il est où ?
Ben, le tabou, il est peut-être parce que dans ce rapport de domination, on peut pas exactement parler d'histoire d'amour. Donc je crois qu'il y a aussi une extrême violence dans la réalité de ce que sont ces sociétés hiérarchisées. Et je crois que pour nous rendre tous la vie douce, on essaye d'éviter de raconter cette violence qui est une violence au quotidien et qui se perçoit encore aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Hey.
Bienvenue dans notre abécédaire en sol majeur, Fanny Glissant. Vous avez une expression poétique pour dire votre identité, enfin, je mets ça en italique, une expression que j'aime beaucoup, vous dites « je suis au milieu de la mer ».
Ouais, mais je suis complètement au milieu de la mer parce que le fait d'apporter en soi tous les sangs de la terre vous demande systématiquement de passer d'un côté à l'autre de vous-même, d'une rive à l'autre de l'océan. Mais c'est un océan, j'ai envie de dire, un océan mythologique, mythique. Et du coup, étant au centre de cette mer, étant dans des racines qui ont du mal, justement, à s'enfoncer dans la terre, j'ai dû circuler dans plein d'endroits. Et par exemple, le Brésil a été un endroit très fort pour moi, parce que tout d'un coup, il y avait une espèce de 85% de la population brésilienne est en fait issue de cette diaspora africaine, et donc ils ont construit une véritable identité, mais qui est une identité syncrétique, et justement où cette multiplicité des possibilités d'être est exprimable.
Voilà. Vous, fille de 68 heures, je ne me trompe pas,
tout à fait.
Maman psychanalyste, non.
Complètement psychanalyste.
Dans le mille. Au hasard. Et papa ?
Papa cinéaste.
Ah là là. On peut donner son nom ?
Gabi Glissant.
Voilà. En tout cas, dans cette famille incroyable, vous avez cherché, vous, des posters à accrocher sur votre mur, les murs de votre chambre. Je parle de l'adolescente que vous avez été. Sauf que ce n'était pas évident. C'était même difficile pour vous de trouver des références. Et vous les avez trouvées outre-Atlantique, forcément.
Here's a likely looking hand, a prime young buck, just picked from the trees. Bright as a monkey. Good bones, sinew. Wanted free of defect. Good teeth, good for Carolina rice. Virginia tobacco, Maryland corn. Pull like an ox and carry like a mule. Step up, see for yourself, gentlemen. He's free of heaves. Files, French box. Young, biddable, fine animal, gentlemen.
What we got to say?
Bon, alors effectivement, pour qui n'a pas eu 15 ans au milieu des années 80, il faut quand même redire, ça représentait quoi d'aimer Public Enemy ? Ou bien la série Roots, Racine, pour rappeler le pitch, ouais, au passage, Fanny Glissant.
Eh bien, ça veut dire que tout d'un coup... ce que mes parents transportaient, c'était vraiment une culture de l'ailleurs. C'était vraiment une idée de la transversalité de leur identité. Mais moi, il fallait bien que, en tant que parisienne urbaine, je trouve quelque chose qui corresponde beaucoup plus à la violence que je percevais de ce bitume, et surtout de vivre en minorité dans une représentation qui était difficile à trouver, dans une modernité, j'ai envie de dire. Et là, quand Spike Lee est arrivé...
Donc c'était loin quand même, Spike Lee, hein ? Parce qu'il n'y avait rien dans l'Hexagone.
Il n'y avait rien dans l'Hexagone. Mais ça, je crois que... où il y avait des choses qui étaient complètement folklorisées.
Bah oui, la compagnie créole.
La compagnie créole, ou les choses, ou même de la biguine. Il y avait chez les Antillais, j'ai envie de dire, une espèce de doudouisme culturel qui nous intéressait pas du tout. Et du coup, Spike Lee a ramené de la frontalité, ouais, bien sûr.
Donc Spike Lee, avec oui, ça a été utilisé. Public Enemy fait partie d'un de ses films, Do the Right Thing.
Do the Right Thing,
ça, ouais, par exemple. Alors, on n'a pas dit un mot sur Racine. Je rappelle que c'est l'histoire de Kunta Kinte, qui est un jeune guerrier mandingue d'un royaume de Gambie et qui est déporté en Virginie où il est acheté comme esclave. Et ça, quand vous regardez ça à 15 ans...
Alors, c'était un peu avant mes 15 ans. Je pense que je devais avoir 10-12 ans. Mais il faut se rendre compte quand même que pour des Noirs de France, il n'y a pas de représentation populaire. Par contre, à la télévision, quand on voyait Le Cosby Show et quand on voyait Kunta Kinte, tout d'un coup, il y avait des personnages historiques auxquels on pouvait s'accrocher et dont on pouvait être fier.
Alors en tout cas, cette problématique autour de l'identité et notamment de l'histoire de l'esclavage, elle est inscrite au cœur même de vos études. Vous auriez pu finir historienne, d'ailleurs vous l'êtes un petit peu en tant que documentariste. Pour votre DEA en histoire, vous avez planché sur l'évangélisation des esclaves noirs. J'aimerais bien lire ça, moi. Non, mais je plaisante à peine. Et puis, vous êtes parti en Guadeloupe à un moment donné. Vous y êtes resté un moment pour étudier les veillées funéraires.
Tout à fait.
La mort étant quand même quelque chose de sacré, si j'ose dire, la culture antillaise.
Oui, c'était vraiment l'idée de se poser la question du syncrétisme. C'est-à-dire que je voulais complètement... Après avoir travaillé sur l'évangélisation des esclaves noirs et me rendre compte à quel point le prétexte religieux n'avait été finalement qu'un prétexte, et que l'idée du transbord pour pouvoir évangéliser et pour pouvoir placer ces noirs éternels enfants dans une civilisation qui leur permettrait d'arriver à être pleinement des humains était en fait une supercherie. Et donc je me suis posé la question de savoir, 2-3 siècles après, comment avaient survécu, on va dire, des liens très forts avec l'Afrique et la culture animiste, et comment ça se traduisait dans une quotidienneté. Et donc je suis restée en Guadeloupe pendant 6 mois à travailler dans les morgues.
Oh là là.
Yeah, oui, j'appelais ça mon attente macabre, parce que pour qu'il y ait veillée funéraire, il faut forcément qu'il y ait décès. Mais c'était très amusant parce qu'en même temps, c'est presque ce qui est assez riche quand on fait de l'ethno ou de l'anthropo, c'est que tout d'un coup, on devient sujet et participant à son sujet. Donc, je me souviens avoir commencé à sentir les vibrations extrêmement puissantes de ces personnes fraîchement décédées.
Ah oui ?
Ouais, tout à fait.
Il faut être dans un état particulier ?
Ah bah oui, mais même la veillée, qui est donc faite avec tambour, boule à gueule, c'est-à-dire c'est des coquillages dans lesquels on souffle. Vous avez ça, et vous avez aussi, les tambours sont mis de côté, et vous avez juste la poitrine des hommes et une façon de souffler qui leur permet de battre le rythme. Quand vous entendez ça, 5, 6, 7 heures, oui, avec du rhum comme seule boisson, vous sentez que tout ça, oui, peut vous emmener assez loin, oui.
Un sphinx géant en polystyrène blanc nous regarde. Et lorsqu'on se rapproche de plus près, il a en fait le visage d'une négresse, d'une esclave. Le fichu sur la tête, des seins énormes, des fesses énormes. Mais elle est dans la position du sphinx. Et c'est une sculpture en sucre blanc signée d'une certaine Kara Walker. Alors je ne sais pas si cette artiste afro-américaine parle directement de l'histoire de l'esclavage. En tout cas, elle ne manque pas d'humour. Et elle ne vous a pas échappé, Fanny Glissant. Pourquoi est-ce que son travail vous intéresse ?
Ce qui est incroyable avec Kara Walker, qui n'est pas du tout historienne, hein, mais c'est qu'elle a su embrasser, je crois parce qu'elle a un pied complètement dans les États-Unis du Sud, où elle est née, et elle a su embrasser toutes les contradictions et toutes les pulsions de cette histoire. Quand je dis ça, c'est que c'est aussi une histoire faite de corps, faite de sexe, faite de violence. Et ça, elle arrive à le restituer. Donc elle construit un discours à deux niveaux. C'est-à-dire, de prime abord, et vous l'avez très bien décrit, dans ses œuvres, et par exemple dans ses œuvres de papier découpé, on est face à quelque chose qui paraîtrait presque bucolique. On est vraiment dans la représentation.
Un théâtre d'ombre.
Une sorte de théâtre d'ombre qui représenterait l'espèce de bucolisme de la case de l'oncle Tom, des robes comme ça complètement 19e siècle, des balançoires et des sycamore trees. Et tout d'un
le
coup,
rêve américain.
Une sorte, en tout cas, de rêve sudiste hein, qui se pose comme étant aussi une sorte de socle de civilisation. Hein, tout à fait. Et dans ce, et quand il se pose dans ce socle de civilisation, il pense être vraiment en haut de cette civilisation et ces pauvres noirs tout en bas. Et quand on s'approche plus près de ces toiles, on perçoit à quel point, en fait, il s'agit de scènes de torture, de scènes de viol. Et cette force qu'elle arrive à restituer dans ses installations est absolument vertigineuse. Parce que c'est comme si elle pouvait rendre compte de ce sentiment ambivalent d'être en même temps dans une forme de séduction, c'est très étrange, et en même temps de répulsion totale.
Merci Fanny Glissant. Glissant, glissant, ça nous dit quelque chose.
Je crois que l'être change perpétuellement. Et que ce que j'appelle la colonisation, c'est le signe même de ce changement. Dans la colonisation, tu peux changer, tu peux fréquenter l'autre, tu peux changer avec l'autre, tout en restant toi-même. Tu n'es pas un, tu es multiple, et tu es toi-même. Tu n'es pas perdu parce que tu es multiple. Tu n'es pas désarticulé parce que tu es multiple. L'Afrique et les Africains ont une vocation à la diaspora et au métissage. Même quand ils se métissent, ils ne cessent pas d'être eux-mêmes. C'est ça que personne ne veut admettre. Ou bien tu es noir, ou bien tu es métisse, c'est-à-dire pas noir.
Et comme entre deux.
Ben oui, on ne pouvait pas traverser tout cet océan d'histoire sans ramener dans nos filets la voix de votre illustre tonton, M. Édouard Glissant. Alors, est-ce qu'il dit bien, M. Glissant, le fond de votre pensée, la manière que vous avez de vivre votre identité, Fanny Glissant ?
Ah ben, je pense qu'il raconte assez bien les multiples, il raconte assez bien l'errance, mais comme quelque chose d'un processus positif, hein, de recherche permanente de soi-même, dans le rapport aux autres, dans cette poétique de la relation qu'il décrit si bien. Et oui, moi je me souviens avoir, puisque ce sont des textes assez quand même
costauds,
on va dire ça comme ça, mais la première fois que j'ai lu le discours antillais, c'est comme si quelqu'un exprimait en mots le sentiment que je traversais quotidiennement.
Donc vous êtes métisse mais pas noire, nous dit-il.
Je pense que je me suis jamais définie comme noire. C'est-à-dire, je me suis définie comme étant la fille d'eux, je me suis définie comme étant celle dont les parents sont nés là. Mais noire, ce n'est que dans le regard de l'autre que je le suis, parfois.
Donc vous avez la nation française, la République même, je pourrais dire, fichée au cœur, mais vous êtes toute voile dehors. Je vous vois comme ça, j'ai l'image, moi. Je sais pas vous.
C'est-à-dire portée vers, définitivement vers l'ailleurs,
oui,
définitivement vers...
Au milieu de la mer.
En même temps, j'ai une grande capacité à être sédentaire, c'est-à-dire que je pense avoir vécu 80% de ma vie dans un quartier de Paris, et en même temps, je ne peux me sentir bien que dans la dimension du voyage, de la circulation et de l'errance. Voilà. Mais il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que c'est un double mouvement. Le mouvement d'une extrême précision du présent et d'une envie, d'une circulation dans le passé et dans le futur.
Bon, c'est une errance. Bah, c'est une errance. Donc, hein, on va dire psychologique, mentale, intellectuelle, d'érudition. C'est une errance aussi sensuelle qui passe par la musique. On n'a pas tellement parlé de cuisine. On n'a pas parlé de la langue. Est-ce que ça passe par le créole, cette errance ?
Eh bien, le créole, c'est-à-dire que il se trouve que mes parents, ma famille, mes grands-parents, pour eux, le français, c'est la langue de l'expression, c'est la langue de la culture, et c'est la langue de la transmission. Et en ça, le créole a été définitivement mis de côté. Et il y a bien un endroit qui n'est pas l'endroit de la transmission, en tout cas, sur ma branche familiale, c'est bien à l'endroit de la langue, ouais, et de la langue créole.
En sol majeur. @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Fanny Glissant, des grenouilles guadeloupéennes, des tambours brésiliens qu'on aura deviné en fait, et puis surtout un documentaire à faire circuler les routes de l'esclavage, disponible en DVD notamment sur Arte Boutique. Alors pourquoi Bouraka Somme Sistema dans votre en sol majeur? Les musiciens qui viennent d'un ghetto de Lisbonne, hein, je crois.
Ouais, qui sont angolais et donc qui parlent. Alors eux, pour le coup, qui ont une langue d'un dynamisme incroyable, c'est-à-dire que c'est du portugais, en même temps c'est du pidgin angolais, qui sont là avec une espèce de vitalité. On sait à quel point les Portugais peuvent avoir mis un voile parfois pudique sur la complexité de leur colonisation, hein, et la complexité d'une colonisation extrêmement tardive, avec des guerres quand même assez violentes. Et ils sont comme ça à l'orée de Lisbonne, et en même temps, ils en sont la jeunesse, et ils le disent et le crient très fort et de façon extrêmement énergique.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis un podcast avec notre application Pure Radio. Et bien sûr, derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel, 15h à Paris, le trio Sofia Bédard, Laura Pinto, Yasmin Chouaki vous espère la semaine prochaine avec un comédien yougoslave, Aris Aka Rezik. À la semaine prochaine.